Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Auteur de bande dessinée, Marie Jaffredo est passée de l'urbanisme au dessin en 2001 avec l'envie de raconter des histoires. Ses premiers récits, édités par les éditions Petit à Petit, ont adapté des œuvres classiques, Maupassant, Grimm, et des chansons, Édith Piaf, Bourville. En 2004 débute l'aventure des Démons de Marie, une série signée chez Carabas avec Michel Le Galli au scénario.
En 2008, elle scénarise et dessine Essie, un one-shot publié chez Vents d'Ouest, un récit sensible et nostalgique se déroulant dans les coteaux du Lyonnais durant les années 60, pour lequel elle reçoit de nombreux prix, dont le prix Coup de cœur de Chambéry. Dans la foulée, ou presque, Marie sort un petit album de strips, les Popcorn, une vision cocasse de sa petite famille.
2010, retour vers le polar avec un diptyque médiéval et sanglant au nom évocateur, Le sang des bâtisseurs, publié chez Vents d'Ouest avec un scénario de Michael Le Galli, récit dans la veine du nom de la rose ou des romans de Ken Follett se déroulant en plein XIIe siècle.
2014, après presque 3 années sur sa table à dessin, Marie sort Les damnés de Paris, un roman graphique évoquant le Paris de la fin du XIXe siècle, publié chez Vents d'Ouest avec un scénario de Michael Le Galli.
En 2015, sort une nouvelle BD dont le récit se situe sur le Mont-Saint-Michel dans les années 1930, un huis clos à la Agatha Christie en terre normande avec Jean-Blaise Dihan au scénario « Meurtre au Mont-Saint-Michel », une coédition Glénat, les éditions du patrimoine.
Bonjour Marie Jaffredo, comment êtes-vous en 2001 passé de l'architecture et de l'urbanisme à la bande dessinée ?
Bonjour, alors c'est vrai que ça ne semble pas forcément évident le passage de l'architecture et de l'urbanisme à la bande dessinée, mais ça reste une planche à dessin dans les deux cas. Disons que j'ai toujours fait de la bande dessinée, mais le bac en poche, ça ne me semblait pas un métier abordable et ça ne me semblait pas en tout cas quelque chose que je pouvais envisager. Donc j'ai commencé des études d'architecture. Voilà. Et puis j'ai exercé ce métier, je me suis spécialisée en urbanisme, j'ai exercé ce métier pendant quand même pas mal d'années, entre autres à Bruxelles. Et quand je suis revenue en France avec ma petite famille, j'ai eu un petit peu un ras-le-bol de la profession. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de passer de l'un à l'autre et de sauter le pas.
Apparemment, vous avez commencé par adapter des œuvres classiques. Nous sommes donc en 2001. Est-ce qu'il s'agissait d'une passion pour certains auteurs ? Donc Maupassant, on l'a dit, Verlaine, Grimm.
Ce sont les éditions Petit à Petit qui m'ont contactée. Je faisais partie d'un fanzine de bande dessinée et une association d'auteurs basée à Caen. J'étais sur Caen à cette époque. Et donc, ils cherchaient des auteurs et particulièrement des femmes. Le premier, ça a été pour illustrer Piaf. Voilà. Et pour l'album sur Piaf, ils voulaient que des femmes. Ce qui, à l'époque, n'était pas forcément évident et qui a été un peu ma chance. Donc, ils m'ont contactée, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Et donc, ma première histoire courte, ça a été une adaptation d'une chanson de Piaf.
Et quand vous dites une histoire courte à propos d'une chanson, ça veut dire combien de pages ?
C'était de mémoire, ça devait être 11 pages, je crois.
11 pages.
Enfin, dans cet ordre-là.
À partir d'une chanson ?
À partir d'une chanson, oui. Ah, oui.
Et alors, Maupassant, Verlaine, Grimm
La collaboration s'est bien passée. Ils m'ont demandé si je voulais intervenir sur d'autres albums. Il y a des albums que j'ai refusés parce que je ne me sentais pas vraiment concernée, comme Claude François, voilà, par exemple. Mm-hmm. Je ne me sentais pas très motivée. Mais par contre, oui, Verlaine, Maupassant, oui, ça m'inspirait. Oui.
Et alors pour Verlaine, par exemple, c'était travail sur un poème sur,
Oui, là c'était assez court en fait. J'ai dû faire quelques pages, cinq ou quelque chose comme ça. C'était un poème, donc. Je crois me souvenir que c'était avec Seca au scénario. Voilà, donc c'est plus court qu'une nouvelle de Maupassant, ça sûr. La nouvelle de Maupassant devait faire aussi une dizaine de pages de mémoire.
Je voudrais revenir un petit peu à la naissance de la BD. Comment est-ce que vous avez appris à dessiner? Est-ce que vous avez fait aussi une formation? Est-ce que vous avez appris toute seule en dessinant depuis toute petite? Comment vous avez fait?
De plus loin où je puisse remonter, je me souviens toujours d'avoir dessiné. En CP, je me souviens, j'ai appris à lire avec... une petite histoire, et pendant toute l'année j'ai dessiné les personnages. C'était le chaperon rouge, voilà. Le chaperon rouge, je l'ai dessiné toute l'année. Je me souviens, sur mes cahiers, il y avait des chaperons rouges, des loups, des grands-mères, partout. Et j'ai toujours dessiné, oui. Mais sans avoir suivi de cours, non. En architecture, il y avait quelques cours un petit peu de couleurs, des cours de nu, où j'ai un peu perfectionné certaines choses, mais je suis totalement autodidacte. Mais comme beaucoup de personnes de ma génération dans la bande dessinée, c'est-à-dire que les écoles de bande dessinée ont commencé à apparaître... je dirais dans les années 90. Et pour beaucoup de ma génération ou de ceux d'avant, certains ont fait les Beaux-Arts, mais j'ai un ami auteur qui a fait les Beaux-Arts et il se sentait pas accepté parce que la bande dessinée a toujours été mal perçue par les écoles des Beaux-Arts. Donc voilà, beaucoup d'autodidactes, et c'est mon cas, ouais.
En 2004, vous publiez le premier album des Démons de Marie, avec la collaboration d'un scénariste, Michael Le Galli, un roman d'aventure qui se remarque par ses couleurs. Au fait, à propos des Démons de Marie, un personnage porte le même prénom que vous. Est-ce que...
Alors, donc le scénariste, c'est Michael Le Galli, avec qui j'avais travaillé sur le Piaf chez les éditions Petit à Petit. Et on s'est très bien entendu, et à ce moment-là, il m'a demandé si j'étais d'accord pour retravailler avec lui. Et donc assez rapidement, il m'a proposé ce scénario qui était déjà écrit, en fait. Il l'avait déjà écrit et le titre était déjà celui-ci. Donc il m'a demandé si je voulais changer le titre. Bon, son personnage principal s'appelait Marie, et bon, voilà, ça ne me dérangeait pas. Et donc le nom est resté, mais ça n'a aucun rapport, donc... avec moi. Et au niveau des couleurs, bah, en fait, c'est le seul album que j'ai fait de cette manière, en fait, à la gouache, que de la gouache, et avec un ancrage à l'encre de Chine. Et c'est une technique que j'ai abandonnée parce que, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Je suis plus dans des couleurs, plus à l'eau, des encres, des aquarelles. Mais bon, une fois que j'avais fait le premier tome, il fallait bien faire le deuxième tome avec la même technique. Et voilà, une fois que j'étais partie, c'était difficile de faire de demi-tour.
En parlant de couleurs et de palettes, vous avez une palette bien définie avec des ocres, des gris, des bleus qu'on retrouve dans chaque album. C'est une palette bien, bien définie. Mmh. Comment avez-vous fait ce choix-là?
Ce sont des couleurs qui me correspondent. Disons que ça correspond certainement à un univers. C'est pas très réfléchi. Dès que j'essaye de sortir de cette palette, je suis pas à mon aise. C'est pas mon voilà. J'ai du mal à gérer les couleurs autres que celles de ma palette. Et donc, pour finir, je reste avec ces couleurs qui. Enfin, les récits sont aussi du même ordre, c'est-à-dire que je fais pas de science-fiction, je fais pas de récits très contemporains. Donc du coup, ma palette correspond aussi aux époques et aux thèmes abordés. J'ai un projet qui plus contemporain, par exemple, qui doit se passer dans les années 90, à Bruxelles, justement, entre autres. Et là, je pense peut-être faire des couleurs informatiques pour avoir justement proposé autre chose, travailler autrement. Bon, c'est encore à l'état de projet, mais ça permettrait de sortir peut-être des ocres et
des gris
et des gris bleus
qui sont très très beaux d'ailleurs.
Je voudrais revenir un peu sur les Démons de Marie. Donc c'est une série, combien de tomes?
C'est un diptyque.
Un diptyque. Est-ce que c'est difficile de tenir la distance, c'est-à-dire qu'on achève un premier album et puis il y en a un deuxième à faire? Est-ce que c'est une nouvelle aventure? Est-ce que c'est une continuité? Ça se fait facilement ou pas?
Oui, ça se fait assez facilement, en fait. C'est une espèce de rebondissement. On finit le premier et hop, on rebondit sur le tome 2. Les damnés de Paris, dont vous allez certainement en parler après. Mmh. Là, c'est presque 3 albums qui ont été faits. Il y a 116 pages, donc c'est une pagination importante et sur lequel j'ai travaillé 3 ans. Et là, ça m'a demandé une énergie justement très importante parce que il n'y a pas eu un break en fait, une récréation avec la fin d'un album. Et je suis contente de l'avoir fait. C'est un roman graphique, c'est comme ça que je le voulais. Mais c'est au niveau énergie, c'était plus difficile.
Alors, on est toujours encore sur Les Démons de Paris. Combien de temps pour réaliser le premier album ?
De mémoire, 18 mois à peu près, je pense.
Et après, je peux imaginer, mais je ne sais pas, qu'on s'interrompt un peu avant de recommencer le deuxième.
Non, il y a peut-être eu un travail de commande ou une histoire courte entre les deux, je ne m'en souviens pas, mais on repart presque directement sur le tome 2.
Et le tome 2, 18 mois, pareillement.
En moyenne, ça doit être quelque chose comme ça.
En feuilletant les demandes de Marie, je vois qu'il y a un carnet de croquis à la fin.
Oui.
C'est assez intéressant. Pourquoi avez-vous fait ça?
C'est une proposition qu'on a faite à l'éditeur. En fait, je fais beaucoup de travaux préparatoires sur un album, aussi bien de recherche que dessin, des personnages. Et mon scénariste m'avait dit, mais ça serait vraiment... C'est dommage que tu fasses ça un peu dans le vide. Ça serait bien de le proposer en carnet graphique. Et l'éditeur a tout de suite accepté. Voilà, donc on a un carnet graphique à la fin du tome 1.
L'éditeur ne s'est pas fait prier, dites-vous. C'est pas une pagination en plus.
Oui, mais ça n'augmente pas forcément énormément le prix de l'album. Sur Les Damnés de Paris, on a aussi un carnet graphique. Voilà, ça dépend... Sur certains albums, ça passe plus facilement que d'autres. Ça dépend aussi de... Enfin, il fait son calcul. Hein, et il se dit, je vais en vendre autant. Ça vaut le coup de faire un carnet graphique ou pas.
C'est intéressant aussi pour les gens qui veulent apprendre à dessiner. Parce que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, hein, de reproduire ce qui est dans ce qui est...
Ouais. Alors, c'est peut-être pas l'objectif premier. Mais les lecteurs, en général, aiment bien. Parce que ça nous permettait aussi de présenter les personnages et leur... Alors, ce qu'il faut, enfin, pour les gens qui ne savent pas, donc, l'histoire se passe sur une île et il y a des malades mentaux qui ont été mis là dans le cadre d'une expérience à grande échelle. Et on présente, grâce aussi au carnet graphique, les maladies mentales de tous les personnages, puisque Michael avait fait des recherches pour trouver chaque maladie mentale de chaque personnage. Et voilà, dans ce sens-là, c'est aussi intéressant. Et puis, enfin, je vous dis, les lecteurs, c'est vrai, sont souvent preneurs... de ce genre d'informations en plus.
Alors, en 2008, vous passez à la scénarisation avec un roman graphique sur le terroir lyonnais, publié par Vents d'Ouest, oui. Et si, entre parenthèses, Terre d'Origine. Donc là, vous faites tout.
Oui, alors Terre d'Origine, c'est le nom de la collection, en fait. C'est pas le nom du titre.
Autant pour moi.
Voilà, c'est vrai. Et oui, ça faisait un petit moment que j'avais envie de travailler de manière... complète sur un album, c'est-à-dire aussi bien au niveau du scénario que du dessin. Voilà, donc cette histoire me trottait dans la tête, comme j'ai dit, depuis un petit moment. Donc j'ai commencé à travailler dessus et puis je l'ai présenté à plusieurs éditeurs et il y en avait deux qui étaient intéressés. Et voilà, et puis pour finir, j'ai signé chez Vents d'Ouest. Hein.
Et. Pourquoi la région lyonnaise ?
Alors, au départ, j'étais pas forcément attachée à ce que l'histoire se passe dans la région lyonnaise, mais au fur et à mesure de l'écriture, j'ai eu envie de situer mes personnages dans une région de vignes, hein, parce qu'on était à la fin de l'été, donc ça se prêtait bien, la vigne, les vendanges fin août, début septembre. La rentrée à l'époque se faisait plus tard que maintenant. Et puis quant à faire, voilà, j'habite dans les coteaux du Lyonnais, donc c'était plus facile, pas forcément plus facile, mais ça s'est présenté à moi comme évident de situer l'histoire dans un village qui est tout proche, et donc comme ça j'ai pu aller faire des photos, des repérages, rencontrer les viticulteurs et poser progressivement mon histoire
justement, il y a un gros travail de repérage, enfin de documentation.
Mais là, chaque case, en fait, pratiquement, c'est une vue du village et de ses environs, puisque tout se passe dans un rayon de quelques kilomètres. Quoi.
Alors concrètement, comment ça se passe? Vous allez dans le village, vous faites des croquis?
Mais comme j'habitais pas loin, je prenais mon vélo, oui. Et puis, alors carnet de croquis, un peu, appareil photo, beaucoup. Je préfère travailler en général sur photo. Parce que j'ai plus d'informations que si moi je fais un croquis. Voilà, donc quelques croquis, oui, mais plus sur des détails, sur les loges, par exemple, c'est les petites cabanes qui sont dans les champs. Voilà, plus pour trouver le dessin sur place. Mais sinon, oui, beaucoup de photos. Enfin, je travaille beaucoup sur documents photographiques aussi bien sur cet album que sur d'autres.
Et ça peut prendre un temps assez conséquent.
Alors ici, vu que c'est pas l'album qui m'a demandé le plus de documentation, puisque je l'avais à côté de moi, que ça ait plus été un travail de photographique et de rencontre avec des gens. Mais sur d'autres albums, comme par exemple Les Damnés de Paris, une grosse documentation, oui, là aussi bien en bibliothèque, sur Internet. L'achat de livres, la lecture de romans, enfin voilà, beaucoup. J'aime bien travailler les albums avant de commencer à écrire le scénario ou à dessiner pour avoir vraiment tous les éléments avec moi.
Je marche nu les pieds, nu les jambes, nu les bras, nu sur la lagune. Je marche nu les pieds, nu les jambes, nu sur la lagune. Et j'aime le vent, l'amour et l'argent. Et j'aime le vent, l'amour et l'argent. Toutes ces choses qu'on ne compte pas, toutes ces choses qu'on ne compte plus. Se lève sur la plage d'Ipanema. Je marche nu, tu vois, je n'ai rien sur moi. Et j'aime l'argent, l'amour et le vent. Et j'aime l'argent, l'amour et le vent. Toutes ces choses qu'on ne compte pas, toutes ces choses qu'on ne compte plus, toutes ces choses qu'on ne devrait pas avoir sur soi. Et le soleil sur les vagues fait des entrelacs. Et ce n'est pas parce que la nuit tombe que je tomberai à genoux devant toi. J'attendrai que le soleil se lève et le vent avec moi. Et les gosses jouent non loin de là à des jeux d'adultes, tu vois. Et les gosses jouent non loin de là à des jeux de brutes, c'est ça. Et les gosses jouent, ils savent déjà l'amour, l'argent, le vent. Ce sont des choses qu'on ne compte pas, des choses qui excitent la vue, des choses qu'on ne donne pas pour rien comme ça. Et le vent se lève sur la plage d'Ipanema.
Couleur FM 97.1, vous écoutez Au fil des arts. Nous venons d'entendre Barbara Carlotti, l'amour, l'argent, le vent. Marie, pourquoi ce premier choix?
Alors, j'ai découvert Barbara Carlotti sur un album consacré à Boris Vian. Elle avait fait une chanson à partir d'un texte de Boris Vian. Et tout de suite, sa voix et sa diction m'ont interloqué. Et voilà, je suis allée découvrir ses albums. Et j'aime beaucoup sa musique, sa voix, ses textes.
Voilà. Alors, on en était tout à l'heure à la grosse documentation que vous faites avant. Et après, comment ça se passe? Il y a le scénario, vous commencez par les textes, les dessins. Comment se fait la chimie pour arriver à une BD?
Alors, la première chose, c'est l'idée. Enfin, voilà, c'est l'envie d'aborder un sujet. Ça peut être vraiment quelque chose de très minimaliste au départ. Sur SI, c'était l'envie de parler de deux enfants et de leurs grands-parents. Souvent, ça peut être un livre, ça peut être un film qui déclenche ce commencement, je dirais. Là, en l'occurrence, c'était Le Grand Chemin, le film qui m'avait beaucoup plu dans sa poésie, dans sa manière de traiter. Cette histoire avec les enfants, leur rapport avec leur histoire, avec la campagne. Et puis après, c'était aussi en lien avec certainement mon enfance, mes grands-parents, quelque chose d'un peu plus personnel. Voilà, donc l'histoire s'est construite très progressivement à partir de ça. Et j'avance, parfois je fais marche arrière, je pars dans une autre direction. Jusqu'à arriver à un synopsis qui tienne la route. Et là, mes personnages, je les ai déjà dessinés dans ma tête. Et là, je commence à les mettre sur le papier. Donc, je travaille tous les personnages. D'abord, les personnages principaux, puis les personnages secondaires. Jusqu'à ce qu'ils correspondent à ce que j'attends d'eux. Voilà, j'ai l'image que j'avais d'eux. Et puis après, le synopsis se développe et c'est l'écriture du scénario, scène par scène, page par page et case par case.
Et qu'est-ce qui vous plaît le mieux dans tout ce travail-là? Qu'est-ce qui vous passionne le plus?
Ben justement, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette genèse un petit peu, c'est cette progression vers quelque chose de fini. Après, le synopsis aussi, donc... Les étapes qui me plaisent le moins, en fait, c'est le dessin pur à partir du synopsis. Je m'arrêterais bien au synopsis. S'il y avait
mais c'est un paradoxe, ça, non?
Alors, sachant que je fais des synopsis assez poussés, c'est des synopsis qui sont le dessin final à plus petite échelle, mais il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de détails. Je retravaille mon synopsis à la table à dessin, à la table lumineuse, pardon. Et quand je monte mes synopsis, on est très proche déjà du crayonné et du dessin fini. Mais c'est vrai que toute cette recherche, cette étude, cette naissance un peu, c'est ça qui me plaît le plus.
On peut revenir juste un petit peu en arrière. Vous disiez que vous commenciez par camper vos personnages. Pour un profane que je suis, camper un personnage au dessin, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement une silhouette, un visage, des postures, des...
Alors, en général, le visage en premier, mais très vite vient effectivement la posture, parce qu'elle participe totalement au personnage. La mamie est un peu voûtée, elle est un peu ramassée, un petit peu petite, parce que tassée par les ans. Le petit garçon va être plus dans une position de petit garçon prêt à l'aventure et Mounette là, le personnage qui est un peu un garçon manqué aussi, enfin voilà, ils ont plein d'énergie et il faut que ça se traduise dans le corps, dans les mouvements. Par exemple un personnage qui va être un peu empâté, voilà, je commence par le visage, mais très rapidement oui, tout le corps suit. Il y a les vêtements aussi, les vêtements sur le sang des bâtisseurs, par exemple, qui se passe au Moyen-Âge. Alors là, au niveau de la recherche, c'était plus compliqué, parce qu'au niveau iconographique, c'est assez limité. Il n'y a pas beaucoup de photos, pas beaucoup de gravures. Mais j'utilise souvent des documents didactiques pour les enfants, en fait, qui ont été réalisés par des historiens, où il y a des photos, par exemple, de tenues, de vêtements, d'objets du quotidien. Et tout ça, ça arrive au fur et à mesure de l'écriture aussi.
Justement, on parlait de gravure, on avait aussi noté aussi que dans vos couleurs, dans votre dessin, on retrouvait un peu ces gravures des livres anciens. Justement, c'est une source aussi de recherche et d'inspiration pour vous.
Ça dépend des albums. De nouveau, sur les damnés de Paris qui se passent au 19e, oui, j'ai utilisé pas mal de gravures anciennes, puisqu'au 19e, c'était un moyen d'expression qui était assez répandu. Autant pour des beaux dessins, je dirais, que pour au niveau journalistique, Daumier et compagnie, voilà, utiliser la gravure. Et je cherche pas forcément le trait précis, le trait fin dans mes dessins. Donc c'est vrai que quelque part, on peut rapprocher ça un peu aussi de la gravure, c'est possible.
Au niveau des couleurs aussi. Un petit peu, la palette.
Oui, oui, éventuellement. J'ai pas forcément réfléchi jusque-là, mais c'est possible, je comprends ce que vous voulez dire.
Alors, il y a une petite parenthèse en 2009. On continue un petit peu le fil de vos travaux. Il y a une petite parenthèse, vous faites un album pour enfants. J'appelle ça parenthèse parce qu'apparemment, c'est peut-être le seul, non ?
Oui, j'étais partie pour deux ou trois tomes, mais j'ai eu pour l'instant le temps uniquement d'en faire un. Mes enfants râlaient souvent parce que je ne faisais pas d'album qui les concerne. Alors à l'époque, ils étaient plus petits que maintenant. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai que ça serait sympa si je pouvais faire un album qui les concerne un peu plus que les autres, parce que c'est vrai que je fais plutôt des albums pour ados-adultes, je dirais, c'est plus mon public. Même si certains sont plus grand public comme Essie. Donc j'ai fait les pop-corn, hein, qui sont un peu la vie de famille de mes trois enfants. Tout ce qui est dedans est vécu, en fait. Donc, ils se sont totalement retrouvés, puisque chaque gag, c'est eux qui l'ont réalisé dans la vraie vie.
Alors, justement, le public est différent. Quel retour vous avez par rapport à ça ?
Sur cet album, que je vends essentiellement en salon de bande dessinée, c'est plus les parents, en fait, qui l'achètent parce qu'ils le feuillettent et qui retrouvent justement des choses qui se sont produites ou qui pourraient se produire. Donc ils l'achètent pour eux ou pour leurs enfants. Là, c'est un autre public, mais parfois pendant que je dédicace aux parents, c'est les enfants qui feuillettent l'album et qui du coup le lisent ou l'achètent. Voilà. Mais c'est pas mon public principal. Je me considère pas comme un auteur jeunesse.
Est-ce que vous avez envie de le refaire aussi ?
J'avais préparé un tome 2. Disons qu'il y a un tome 2 qui est écrit. Après, c'est le temps pour le faire qui me manque un peu. Parce que j'enchaîne pas mal les albums les uns après les autres. Ce qui est un bien pour un auteur. Mais cet album, en fait, c'est un album qui est édité à la Fourmilière BD, qui est une maison d'édition lyonnaise sous forme associative, gérée par les auteurs. C'est un autre fonctionnement et donc les auteurs sont plus autonomes sur leurs ouvrages. Il faudrait que je prenne le temps de le réaliser, tant que j'ai toujours pas pris jusqu'à présent. Voilà.
Alors on passe ensuite à un polar médiéval en deux tomes, Le sang des bâtisseurs. Et là, vous nous introduisez dans la construction d'une abbaye,
oui,
dans le midi de la France, pour raconter une histoire fantastique, des meurtres sacrificiels. C'est un album, pardon, que vous avez aimé. Il est en deux tomes.
Alors en fait, c'est de nouveau avec Michael Legali, oui, avec qui j'avais réalisé Les démons de Marie. Michael m'a proposé de retravailler avec lui et il m'a dit, mais dis-moi, donne-moi un thème et on part sur un scénario dans la direction que tu veux, sur le thème que tu veux. Moi j'aimais beaucoup les polars historiques. J'étais assez adepte du Nom de la Rose ou des Piliers de la Terre, hein. Donc je lui ai dit peut-être quelque chose dans cet esprit-là. Et voilà, donc Michael a commencé à écrire. Moi, venant de l'architecture, je lui ai proposé que ça se passe sur un chantier d'abbaye ou de cathédrale, enfin peu importe. Et voilà, il est parti dans cette direction. Et voilà, le dernier élément que je lui avais demandé, c'est d'avoir un personnage féminin, un personnage principal.
Alors justement, il y a un peu deux pôles. C'est le polar et puis l'architecture. L'architecture, c'est votre ancien métier. Est-ce qu'il y a une petite nostalgie ? Est-ce que vous en servez ? Et puis les polars, quels sont vos auteurs de polars favoris aussi ?
Oui. L'architecture, oui, puisque je lui avais demandé, ça m'intéressait de montrer un chantier d'abbaye ou de cathédrale. C'était un peu, je vous dis, le point de départ. Donc on peut y retrouver, oui, mon attrait pour l'architecture et les vieilles pierres, qui n'a jamais disparu malgré le fait que j'ai arrêté le métier. Après, sur les polars, une envie en tout cas de retrouver l'ambiance d'auteur que j'aime bien et d'ouvrages que j'ai lus. Il y avait entre autres Fidelma de Kildare, qui n'est pas forcément très connue. C'est toute une collection, toute une série écrite par Peter Tremen, avec une moniale en fait, qui est le personnage principal, qui était un peu le point de départ. Mais qui n'est pas aussi thriller peut-être que l'histoire. Le nom de la rose était un peu le point de départ quand même.
Et vous venez de nous dire qu'il y avait un personnage féminin. C'était une demande que vous avez adressée au scénariste.
Oui, parce qu'il y a trop d'albums où le personnage principal est un homme. Donc de temps en temps, c'est bien d'avoir une femme en personnage principal. Elle se retrouve en fait, c'est ce personnage qui s'appelle Margot. Et la fille d'un maître bâtisseur, et par un jeu de circonstances, elle se retrouve à la tête du chantier. Ce qui est, en fait, on a fait des recherches pour voir si on ne trouvait pas de traces de maître bâtisseuse, parce qu'à cette époque du Moyen-Âge, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient dans toute spécialité. On a trouvé des maîtres maçonnes, des maîtres charpentières, je ne sais pas si on se dit comme ça, mais on n'a pas trouvé de maître bâtisseuse. Mais on a extrapolé par le jeu du scénario, on est arrivé à ce que ce soit elle qui soit en charge du chantier.
Oui, alors vous nous parlez de ce personnage principal, du sang des bâtisseurs. Est-ce qu'il y a pour vous une espèce de processus, je ne sais pas comment dire, phénomène d'identification avec cette femme donc,
Il y a toujours une part d'identification. Oui. C'est plus facile de créer un personnage féminin, même si il me ressemble pas, même si je m'en sens éloignée. C'est plus facile de passer ses journées en fait avec un personnage qui vous ressemble de près ou de loin, qu'avec un personnage qui me serait très éloigné. Ouais. Je passe ma journée avec tous mes personnages, et quand c'est un personnage principal, encore plus évidemment.
Une journée, ça veut dire combien d'heures?
Eh bien, je commence vers 8 heures et je finis vers 18 heures en général.
Vous prenez le temps de manger un peu quand
même ?
Oui,
je fais une pause à midi. Mais parfois, les gens imaginent qu'on travaille 2-3 heures par jour et qu'on a le temps de flâner après. Je prends le temps de faire plein de choses, mais je travaille, minimum 8 heures par jour et 5 jours par semaine, 4 à 5 jours. C'est vrai qu'avec avec les enfants, je faisais plus. Je travaillais un peu moins le mercredi avant, mais maintenant qu'ils sont plus grands, je travaille de manière plus continue.
Et je suppose qu'on y pense tout le temps, même si vous n'êtes pas à votre table à dessin, c'est quelque chose qui reste dans la tête.
Ça dépend de l'étape, en fait. Au moment de l'écriture, oui. Après, au moment du dessin, j'essaie quand je pose le crayon, j'y pense encore pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais non, jusqu'au lendemain matin. Non. Mais au moment du processus d'écriture, oui, ça travaille à tout moment.
Une île habitée, jamais déserte, ni désertée. Elle est habitée, en hiver comme en été, de pêcheurs, de faiseurs de bateaux, de bistrots, tavernes enchantées. C'est une île brune et verte, aux maisons blanches toujours ouvertes. On y trouve un verre de résinée, la lumière de la Méditerranée, quelques touristes à l'année, des hippies et des chiens, des voyageurs, des marins. C'est une île habitée, jamais déserte ni désertée. On y rencontre, lorsque tombe le soir, des femmes en noir, serrant dans un mouchoir le basilic et le laurier. C'est une île habitée de tout un passé. Elle flotte au soleil depuis l'Antiquité. C'est une île habitée par une femme, une amie, une amante, un amour. Un ami de toujours, un ami d'aujourd'hui, et tous les inconnus habillés de fierté, si fiers d'habiter cette île qu'ils n'ont jamais été voir de l'autre côté. C'est une île habitée, jamais déserte ni désertée. Je la connais, j'y suis allé, et puis je l'ai quittée un matin de mai. Mais je sais que j'y retournerai et je t'emmènerai habiter cette île. Je t'emmènerai habiter cette île que nous ne déserterons jamais, 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 jamais. Adios.
Au fil des arts, toujours sur 97.1 Color FM, nous venons d'entendre Georges Moustaki. Le titre, c'est « L'île habitée ». Alors Marie, pourquoi ce choix ?
Comme la plupart de mes choix musicaux d'aujourd'hui, en fait, c'est une chanson qui me fait, qui me fait vibrer. En fait, je réagis très physiquement aux chansons et elles me parlent tout de suite ou pas. Celle-ci, en l'occurrence, me fait vibrer. Et c'est une chanson où l'histoire se passe sur une île grecque. J'adore les voyages et ça me transporte tout de suite.
Est-ce que la musique vous accompagne dans votre travail de création ?
La musique, la radio de manière générale, et puis la musique, oui. Je travaille jamais en silence, en fait.
Alors, en 2014, vous publiez Les damnés de Paris. Étant donné l'importance du volume, on peut parler de roman graphique.
Oui.
Vous plantez le décor dans le Paris de la fin du 19e, avec un regard sur l'architecture, les arts, l'histoire, la littérature, Haussmann, Nadar, Zola, Gambetta. Alors, pourquoi ce choix du Paris de la fin du 19e siècle ?
Alors, Paris au 19e siècle, c'est vraiment une période très, très riche, avec beaucoup de bouleversements dans tous les domaines que l'on imagine, aussi, le domaine des arts, de l'écriture, de l'architecture, de l'urbanisme. La ville donc a été énormément transformée, entre autres, et c'est ce qui m'intéressait de montrer. Toute cette période aussi riche, aussi avec autant de bouleversements à tous les niveaux.
On aperçoit les Halles,
Il y a les Halles, il y a
Pavillon
Baltard, énormément de rues qui ont disparu pour construire tous les boulevards haussmanniens. Je me suis aidée, entre autres, d'ouvrages voilà, qui faisaient apparaître toutes ces rues qui ont été détruites et qui représentaient le Paris du Moyen-Âge, en fait.
Alors, toujours la même palette, les gris, les bleus, l'ocre, quelques verts quand même aussi. Et alors, et ces cadrages très intéressants, en plongée, contre en plongée, c'est vraiment magnifique.
Bah, la bande dessinée utilise à peu près les mêmes techniques que le cinéma, avec cette facilité qu'on n'a pas besoin de technique, pas besoin de caméra avec des bras articulés. Ce sont nos yeux qui sont simplement nos seuls outils avec notre main, évidemment. Et au niveau des cadrages, c'est la même chose, en fait. Travelling, vue large, vue serrée. Et c'est vrai que j'aime bien faire des plongées, contre-plongées, qui donnent vie un peu et qui animent le récit.
Et du coup, à parcourir vos albums, on a l'impression que vous travaillez aussi la mise en page.
Oui, en fait, je travaille dès le storyboard, je travaille avec la double page qui va se présenter à vous quand vous allez lire, pour avoir je vérifie que la lecture fonctionne au niveau du rythme, au niveau des cadrages, au niveau du découpage. C'est tout un ensemble, en fait, qui permet, enfin, où j'essaie que le lecteur ait une lecture fluide, agréable et qui ne sorte pas du récit, voilà.
C'est ça, c'est l'intégration des textes est importante aussi.
Oui, de la même manière, ça intervient au moment du storyboard, puisqu'il faut tenir compte de la position de la bulle, que le lecteur puisse la lire aisément, ne se pose pas de questions, en fait, voilà, est-ce que c'est bien cette bulle-là que je dois lire ? Et entre autres, là, Michael est souvent très bavard au niveau des scénarios et j'ai souvent beaucoup de bulles imposées, alors que souvent, je m'en tiendrai bien au dessin. Mais voilà, faut bien que le récit se fasse et que les dialogues interviennent.
Et pourquoi ce choix d'une certaine longueur quand même, vous disiez tout à l'heure, 116 pages.
Oui, alors au début, mon idée première était d'adapter toute seule L'Assommoir, Émile Zola, et j'ai fait marche arrière, en fait. Je me suis dit que j'étais pas assez littéraire, j'avais pas de formation littéraire et que j'en recevrais tout un flot de critiques sur mon adaptation peut-être trop personnelle. Donc, je suis partie sur un récit peut-être dans cette veine-là, mais personnelle. Et Michael m'a rejoint au niveau de l'écriture.
On a l'impression que cet album vous a occasionné un certain plaisir.
À chaque fois, c'est ce que j'essaie d'avoir. C'est d'abord
À chaque album.
Oui. Oui. De nouveau, je vais travailler 1 à 3 ans sur un album. Donc, quant à faire... autant que l'histoire me parle, autant que je me sente concernée. J'avais commencé à travailler avec un scénariste sur un récit de science-fiction et j'ai tout de suite arrêté. Ça ne me convenait pas. C'était pas la peine d'aller plus loin.
Donc il faut 3 ans pour cet ouvrage.
Presque 3 ans. On est à 2 ans et 10 mois, je crois, de mémoire.
Et pendant ce temps-là, on fait autre chose ou c'est que cet ouvrage ?
Ça dépend des albums. Là, je ne sais plus sur celui-ci. Parfois, il y a des travaux de commande qu'on intercale. Mais principalement, je crois que j'ai travaillé sur celui-ci pendant toute la durée de l'album, sachant qu'on est payé en avance sur droit, c'est-à-dire que les auteurs n'attendent pas la sortie de l'album pour recevoir leur droit d'auteur.
Est-ce que c'est pas quand même c'est terrible ça à raison de 5 jours par semaine pendant 3 ans, c'est une épreuve de longue haleine, c'est plus qu'un marathon.
Ouais, quand je fais des interventions au milieu scolaire, les enfants sont toujours effarés quand je leur demande mais combien de temps pensez-vous que je travaille dessus, ils me disent 2 mois, 3 mois. Ouais. Et quand je leur dis mais ils sont effarés par ma réponse, mais la première chose que doit posséder un auteur, c'est de la patience. Patience, parce que ça se fait pas en 3 jours.
Donc vous êtes patiente.
J'essaye, parce que c'est pas, je dirais pas que c'est ma qualité première au départ.
Alors on arrive en 2015, donc votre dernier album, Meurtre au Mont-Saint-Michel, c'est un polar. Et puis c'est aussi peut-être, si j'ai bien compris, si nous avons bien compris, un retour sur les terres familiales. Alors, avant que vous nous parliez de l'album, il y a une particularité, c'est qu'il est coédité par Glénat et puis les éditions du Patrimoine, et oui, même le Centre des Monuments Nationaux.
Tout à fait. Oui. En fait, ça fait partie d'une collection donc coédité par Glénat et les éditions du Patrimoine. Et depuis un petit moment, ils cherchaient un auteur pour travailler sur le Mont-Saint-Michel. Et c'est à la lecture des Damnés de Paris qu'ils ont demandé à Glénat s'ils pouvaient me contacter, voilà, pour travailler sur cet album et si ça m'intéressait. Donc voilà, Glénat m'a demandé si ça me plairait. Et effectivement, le Mont-Saint-Michel, c'est un peu mes terres d'origine. Mon père étant breton et ma mère normande, le Mont-Saint-Michel est à peu près au milieu. Et c'est un monument que j'ai visité étant enfant de nombreuses fois et ça me parlait beaucoup. Et donc j'ai accepté de travailler sur, sachant que j'avais carte blanche sur le projet.
Et est-ce que vous avez, pour réaliser cet album, procédé de la même manière que pour le précédent, c'est-à-dire vous avez, ou pour les autres, vous avez pris des photos, vous êtes allé sur les lieux, bien sûr.
Oui, la première...
Parce que c'est très, très fouillé, quand même.
Ouais. La première étape, j'ai demandé à aller sur place et à pouvoir aller partout avec un guide conférencier. Donc, c'est ce qui m'a été permis de faire. Et donc j'ai fait pendant toute une journée, j'ai visité le mont avec François Saint-James, qui est un des plus réputés guides conférenciers du Mont-Saint-Michel. Et là, je suis partie sans trop d'idées. Parce que ça s'est fait assez rapidement. Et là, les idées sont venues au fur et à mesure. En fait, j'ai aussi lu un roman qui se passait dans les années 30 sur le Mont-Saint-Michel, qui m'a aussi influencé.
C'était quoi le roman ?
Je ne sais plus le titre, parce que j'en ai lu plusieurs. C'est par l'auteur de Capitaine Conan, en fait. C'est un ouvrage qui est assez peu connu.
Oui.
Mais qui m'a mis dans une ambiance qui convenait à ce que je voulais raconter. Voilà. Et c'est parti comme ça. J'ai commencé à écrire le récit. Et puis, j'avais un impératif de temps parce que les monuments nationaux voulaient que l'album sorte pour les manifestations de la fin. Parce qu'il y a eu énormément de travaux réalisés sur le mont. Et entre autres, l'accès au mont qui a été évidemment tout changé. Donc, j'avais une date de sortie de l'album imposée. Et donc, j'ai fait appel à Jean-Blaise Jean, qui est un scénariste que je connaissais très bien et avec qui on avait envie de travailler ensemble depuis pas mal d'années. Et voilà. Et donc, il est venu à ma rescousse pour m'aider dans le scénario.
Well, I haven't fucked much with the past, but I've fucked plenty with the future. Over the skin of silk or scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Stages like each bolt of wood, like a log of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green, not sewed over with flat metallic circles which dashed and flashed. The nights were violet and the were white. I had an ornamental veil, I couldn't bear to use it. With my hair was cropped, I can't pay covering. But now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of a crazy and sleepy Comanche. Rise beneath this matting of skin, I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun, I desire him. He is absolutely ready to seize me. And in heart, I am Muslim. In heart, I am an American. And in heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure. I seek nerves under your skin. The narrow archway, the layers, the scroll of ancient letters. We worship the floor, the belly, the mole on the belly of an exquisite whore. You spare the child and spoil the bride. I have not sold myself to God.
Au
fil des arts 97.1 sur Couleur FM. Nous venons d'entendre Biblog de Patti Smith. Marie, Patti Smith.
Alors, Patti Smith, c'est toute ma jeunesse. Et j'admire beaucoup cette femme, sa musique, sa poésie. C'est une artiste complète. Elle peint, elle écrit. C'est, voilà.
Nous avons la même passion, alors, parce que moi aussi, j'ai une passion aussi pour Patti Smith. C'est aussi une poétesse. C'est une très belle poétesse. Mmh. Oui. Mmh.
Alors, il y a des enfants dans vos albums.
Souvent.
Ils ont une place importante. Dans Les Dindes de Paris, Darius, c'est quelqu'un qui compte.
Oui, c'est un des trois personnages
principaux. Oui. Et c'est un choix délibéré ou ça vient au fur et à mesure de l'idée qui mûrit de l'album à dessiner
Non, en fait, je pense qu'il y a toujours des enfants, parce que l'enfance est toujours présente, soit au travers de l'histoire, au travers des personnages, et je pense que chaque auteur parle quelque part toujours de son enfance. L'enfance est toujours, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, est toujours présente dans notre vie et donc dans les récits. C'est très personnel, même si le récit n'est pas... comme ça, de manière au premier degré personnel, il y a toujours quelque chose de nous dans l'histoire, dans le dessin, dans l'ambiance.
Et tout à l'heure, vous avez parlé d'ateliers. Vous animez aussi des ateliers de dessin pour les enfants ou les adultes?
J'interviens régulièrement au milieu scolaire. C'est quelque chose, ça me permet de sortir de mon atelier à moi et de rencontrer les enfants, de leur parler de bandes dessinées, d'écriture ou de peinture. J'anime aussi, par exemple, l'étape que les gens doivent connaître au travers de leurs enfants. Et par exemple, cette année, je leur fais découvrir la peinture. C'est pas forcément de la bande dessinée. Là, j'ai eu l'occasion de faire autre chose. Donc, je leur fais aborder la peinture de manière sympathique. En tout cas, j'essaye.
Ouais. Est-ce que les enfants sont preneurs de ce qui concerne les arts graphiques? Est-ce qu'ils ont envie de s'exprimer? Est-ce qu'ils ont envie de dire des choses?
Ça dépend. Ils sont souvent... En fait, j'aborde avec eux la peinture de manière assez simple, parce que souvent, ils se bloquent. Ils disent même « Marie, je ne sais pas dessiner ». Je leur dis « Mais ce n'est pas grave. Regarde Picasso. Aujourd'hui, on va essayer de peindre comme Picasso. Et regarde, c'est pas compliqué. Il met les yeux à droite, à gauche. La bouche, elle est de travers. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est le dessin que t'auras à la fin. C'est les couleurs, c'est l'ambiance. Et souvent, ils sont contents après, en fait. Mais la peinture leur fait peur. Et Mondrian, Picasso, Paul Klee. Mais finalement, c'est des peintres qui sont abordables par les enfants.
Voilà. Les peintres abstraits, donc.
C'est plus facile pour eux. La peinture abstraite, justement, c'est plus facile. C'est des traits, c'est de la couleur.
Ils sont aussi souvent inspirés par les mangas. C'est une autre forme, entre guillemets, de dessin et de BD.
Oui. Mais alors, le manga, c'est une écriture que... Enfin, c'est de la bande dessinée, mais que je lis plus qu'autre chose. Donc, moi, je la lis, en partie. C'est pas forcément ce que je lis le plus en bande dessinée, mais il y a des auteurs manga, donc je leur laisse faire des ateliers sur le manga. Moi, j'aborde pas trop ce sujet. Non.
Est-ce que, Marie Jaffredo, est-ce qu'on peut évoquer votre projet?
Oui.
Les travaux en cours, peut-être déjà.
Mais je travaille sur un album actuellement qui est dans le cadre de la collection des grands peintres, justement, chez Glénat. Donc, c'est un album qui va parler d'Edouard Manet et de Berthe Morisot, de leur relation... le point de départ étant une peinture, et voilà. Et on parle de leur vie, leur œuvre un petit peu, et surtout leur relation, qui était, on pense, une relation amoureuse, mais en tout cas, on est parti de ce principe-là. Leur relation n'était pas juste amicale, mais que c'était une passion dévorante.
Et pourquoi Manet? L'impression, là, en 2016, on ne parle pas beaucoup de Manet. On en a parlé peut-être il y a très longtemps, enfin, pas très longtemps, mais... On n'en parle plus, là, maintenant.
De la même manière que j'ai travaillé le 19e à Paris, c'est une période qui me plaît beaucoup en concernant la peinture, l'impressionnisme, par rapport à ses couleurs, ses ambiances. Donc traiter un impressionniste me semblait, me semblait évident, et ça me permet, en abordant Manet, j'abordais Berthe Morisot, en fait, qui est une des rares peintres impressionnistes, mais non des moindres, qui est assez peu connue, et pourtant elle a fait une œuvre majeure qui mérite d'être connue.
Elle a beaucoup peint aussi des scènes quotidiennes, elle a beaucoup peint sa fille aussi.
Oui, oui.
Et au niveau du scénario, alors, quelle est vraiment l'histoire ? Enfin, sans trop la déflorer non plus.
Alors, en fait, le principe de la collection des grands peintres chez Glénat, c'est de parler d'un peintre à partir d'un tableau. Donc, le tableau qu'on a choisi, c'est Le Balcon, qui est le premier tableau où Berthe Morisot apparaît. À cette époque, Manet a rencontré Berthe Morisot. Il lui a demandé de poser pour lui, et c'est là qu'a commencé leur relation. Et le principe de la bande dessinée, c'est qu'on part des lettres que Berthe Morisot a écrites. Elle en a fait détruire une partie, et on imagine que ces lettres qu'elle a fait brûler à sa mort racontent la passion qu'elle a eue avec Édouard Manet. Et le fil conducteur, donc, c'est ces lettres qui nous servent de fil rouge, en fait, à l'histoire, cette correspondance qui a disparu.
C'est étonnant quand même de rentrer dans un tableau avec une BD.
Oui, oui. Et alors, quand aurons-nous la chance de découvrir cet album ?
Alors, j'ai commencé les couleurs il y a assez peu de temps. C'est en couleur directe comme toutes mes bandes dessinées. Et donc, c'est assez long à faire. Ce qui fait que l'album sortira début 2017, normalement.
Non, on parle de couleurs, mais la technique aussi, c'est souvent de l'aquarelle, la gouache, et aussi des crayons de couleur aussi.
Oui, alors la base, c'est de l'encre. Je fais un premier lavis avec de l'encre sépia, et après je viens avec mes aquarelles, rehausser et donner vie à l'ensemble. Et le crayon de couleur me permet de nuancer certaines choses, il vient juste en appui. Donc la base, c'est encre et aquarelle.
Du coup, il n'est pas étonnant qu'il vous faille tant de temps pour faire un album. Parce que ça fait quand même plusieurs interventions sur une même page.
Bah oui, mais c'est un peu les étapes normales. Mais oui.
Par rapport à tout ça, votre futur album, est-ce que les couleurs seront différentes ?
Alors justement, j'ai essayé en tout cas de rendre un petit peu, je ne vais pas dire une ambiance impressionniste, mais d'être plus... Les couleurs seront normalement plus vives, un petit peu plus lumineuses, pour être dans cette ambiance impressionniste correspondant à Manet et à Berthe Morisot.
Est-ce qu'on peut donner déjà une date de sortie ou pas ?
Début 2017, normalement. Ouais.
C'est fait.
C'est fait. Voilà. Eh bien, nous le redisons.
pour Angoulême ou pour le Salon de Paris, je pense. Voilà.
Alors, il semble qu'un petit peu plus long terme, vous ayez une autre idée en tête. Est-ce que vous pourriez nous la dévoiler ?
J'ai plusieurs idées en tête.
Plusieurs.
Dans mes cartons à dessin, j'ai au moins deux ou trois projets plus aboutis que les autres. Dévoiler, il y a celui dont j'ai parlé rapidement, c'est l'histoire d'une adoption, et donc l'histoire commence dans les années 90 et à Bruxelles, et va se dérouler aussi en partie à Pékin, où se déroule l'adoption. Voilà, c'est l'histoire d'une adoption, avec toutes les étapes et le ressenti des intervenants.
Bruxelles, Pékin, vous élargissez le champ d'intervention.
J'aime bien les voyages, comme vous avez dit.
Vous aimez bien les voyages, oui. Oui, oui.
Nous avions remarqué aussi dans vos BD.
Oui.
Même si elles se passent toutes en France, mais je vais plus loin normalement, moi, oui.
Bien.
Et Bruxelles
J'y ai vécu, c'est la ville de mon compagnon, voilà. Donc, c'est une ville qui m'est chère.
L'Art Nouveau, peut-être,
L'Art Nouveau,
à Bruxelles.
Oui, oui, mais il n'y a pas que ça, mais entre autres, L'Art Nouveau est très présent, effectivement, à Bruxelles. Mais c'est une ville assez riche et très, très joyeuse, très agréable à vivre. C'est juste la météo qui est moyenne.
Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Oui. Nous vous remercions.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.